Le Saint-Esprit comme puissance en nous. Il n'est toutefois pas suffisant de posséder, par la nouvelle naissance, la vie nouvelle. Certes, nous sommes ainsi rendus capables d'avoir communion avec Dieu, mais il faut une puissance pour réaliser cette communion. C'est ce que nous trouvons dans la première partie de Jean 4. La première chose qui nous est présentée au verset 10 est que Dieu, dans cet évangile, n'est pas celui qui exige, mais celui qui donne. La loi exigeait
« Tu aimeras l'Éternel ton Dieu, etc. »
Et même à un Nicodème sans reproche, le Seigneur disait
« Il vous faut être né de nouveau. »
Ici, au contraire, Dieu proclame son amour envers le pécheur, oui, à la plus misérable pécheresse, à une femme samaritaine de mauvaise vie. C'est la grâce souveraine qui ne se limite pas aux Juifs, mais qui s'étend aussi au dehors. Il n'est pas tout à fait juste de dire que le don de Dieu signifie ici Christ. Sans contredit, il est le grand don de Dieu. Mais en Romains 6, verset 23, il est aussi dit
« Le don de grâce de Dieu, c'est la vie éternelle dans le Christ Jésus notre Seigneur. »
Je pense que nous avons en Jean 4 la même pensée qu'en 2 Corinthiens 9, verset 15.
Grâces à Dieu pour son don inexprimable.
Là, le don indique toutes les bénédictions de Dieu, de sorte que l'œil n'est pas dirigé vers le don, mais sur Dieu, comme celui qui donne. Puis le Seigneur Jésus dit qu'il est le Christ, verset 26.
Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. »
Il se manifeste comme celui qui sait tout, au verset 18. Et comme celui qui donne l'eau vive jaillissante en vie éternelle, versets 10 et 14.
Jean 4, verset 18. Tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Jean 4, verset 10. Jésus répondit et lui dit. Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit donne-moi à boire, toi tu lui eusses demandé, et il t'eût donné de l'eau vive. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, moi, n'aura plus soif à jamais. Mais l'eau que je lui donnerai sera en lui une fontaine d'eau jaillissante en vie éternelle.
Cette personne glorieuse est là, fatiguée du chemin, ayant faim et soif, assise sur une fontaine, et elle demande à cette samaritaine pécheresse un peu d'eau à boire.
Sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, en Timothée 3, verset 16.
Et si la Samaritaine ne voit en lui qu'un Juif, il n'en est pas moins le Fils de Dieu, le juge des vivants et des morts, Jean 5, verset 17 à 29.
Mais Jésus leur répondit, « Mon Père travaille jusqu'à maintenant, et moi je travaille. À cause de cela donc, les Juifs cherchaient d'autant plus à le faire mourir, parce que non seulement il violait le sabbat, mais aussi parce qu'il disait que Dieu était son propre Père, se faisant égal à Dieu. Jésus donc répondit et leur dit, « en vérité, je vous dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, à moins qu'il ne voie faire une chose au Père, car quelque chose que celui-ci fasse, cela le Fils aussi de même le fait. Car le Père aime le Fils, et lui montre toutes les choses qu'il fait lui-même, et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'admiration. Car comme le Père réveille les morts et les vivifie, de même aussi le Fils vivifie ceux qu'il veut. Car aussi le Père ne juge personne, mais il a donné tout le jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, je vous dis que celui qui entend ma parole et qui croit celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous dis que l'heure vient, et elle est maintenant que les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils aussi d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné autorité de juger aussi, parce qu'il est Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient en laquelle tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix, et ils sortiront, ceux qui auront pratiqué le bien en résurrection de vie, et ceux qui auront fait le mal en résurrection de jugement.
Il est celui qui peut donner l'eau vive, de sorte que celui qui boira de cette eau-là n'aura plus soif à jamais. En troisième lieu, nous trouvons l'eau vive. Au chapitre 3, nous avons lu qu'il faut être né d'eau et de l'esprit, et nous avons vu que là, l'eau est une image de la parole de Dieu. Le Saint-Esprit produit, par la parole, la vie dans un homme qui ne possédait aucune vie de Dieu, mais seulement une nature pécheresse. Ici, il s'agit d'eau vive, donc d'une eau caractérisée par la vie, l'eau d'une fontaine de vie qui coule sans cesse. C'est la parole et l'esprit ensemble, mais caractérisée par l'esprit. Au chapitre 7, versets 37 à 39, nous voyons aussi que l'eau vive est une image du Saint-Esprit, mais en tant que demeurant dans le croyant.
Jean 7, versets 37 à 39. Et en la dernière journée, la grande journée de la fête, Jésus se tint là et cria, disant, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, selon ce qu'a dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive couleront de son ventre. » Or, il disait cela de l'Esprit qu'allaient recevoir ceux qui croyaient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié.
Cela n'est pas la même chose que la nouvelle vie divine que nous possédons par la nouvelle naissance, pas même dans sa forme la plus riche, telle qu'elle nous est présentée dans l'expression « vie éternelle ». Celle-ci est, en elle-même, dépendante et ne peut jamais être une fontaine. Ce serait en contradiction avec toute la vérité concernant cette nature nouvelle et divine que de la représenter comme une fontaine. Tandis que le Saint-Esprit, en tant qu'habitant dans le croyant, est une fontaine de puissance, une source de joie qui jaillit en vie éternelle. La puissance vivifiante du Saint-Esprit, le contraste entre l'ancienne et la nouvelle création, tels que nous les trouvons en Jean 3, sont annoncés sur la terre depuis la chute. Dès le chapitre 3 de la Genèse, l'Esprit de Dieu a agi dans les âmes pour produire en elles la nouvelle naissance, car sans nouvelle naissance, aucun pécheur ne peut être sauvé. Toutefois, l'Esprit de Dieu n'a jamais été donné avant que le Fils ait été manifesté comme homme sur la terre dans son amour envers les pécheurs et avant que Dieu se soit révélé comme celui qui donne. C'est aussi Christ qui donne, et ici il ne se donne pas lui-même, ni seulement la vie. Cela nous l'avons vu au chapitre 3, et la parole ne se répète jamais. Il donne le Saint-Esprit, qui est dans le croyant une source de puissance. Jean 7, verset 39, nous dit que cela ne se produisit qu'après que le Seigneur eut été glorifié. Nous en voyons l'accomplissement le jour de la Pentecôte. Jean 4 se rapporte seulement au temps de l'assemblée sur la terre, ce que confirment clairement les versets 23 et 24.
Jean 4, versets 23 et 24, « Mais l'heure vient, et elle est maintenant que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car aussi le Père en cherche de tels qu'il adore. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. »
Bien que son cœur se sente attiré par la grâce, cette femme ne comprend rien de ce que le Seigneur lui dit, et elle ne connaît pas sa gloire. Elle pense que le puits est trop profond pour le Seigneur, et en fait, le puits dans lequel il puise est profond, C'est le cœur du Père qui veut se manifester à des pécheurs comme le grand donateur. Avant la chute, Adam n'a jamais eu soif. Sans doute en fut-il ainsi matériellement, mais en tout cas spirituellement, car sans cela la création de Dieu n'aurait pas été très bonne. Après la chute, l'homme a eu soif. La meilleure chose qu'il avait, c'était une espérance, mais il n'en voyait pas la réalisation. Même la tradition, le puits de Jacob, dans lequel l'homme religieux cherche à étancher sa soif, ne peut pas satisfaire. Quiconque boit de cette eau-ci aura de nouveau soif, verset 13. Maintenant, le Fils de Dieu était venu pour donner à tous ceux qui sont nés de nouveau, à tous ceux qui ont la vie éternelle, le Saint-Esprit, la puissance qui les rend participants de tout ce qui est en Dieu. Lorsqu'il s'agit de choses naturelles, mes biens diminuent quand j'en donne une partie. Dans les choses spirituelles, il en va autrement. Plus je donne, plus je reçois. La source est inépuisable, elle jaillit en vie éternelle et satisfait tous les désirs de la nouvelle vie. On ne peut pas dire que ce soit le cas, pratiquement, si le cœur est attaché aux choses terrestres. Un croyant qui se trouve dans un état charnel a soif, mais s'il revient à Christ, il trouve, au fond de son âme, la source. Le Saint-Esprit ne nous est pas présenté ici comme une personne. Nous trouvons cela plus tard, lorsque est exposée la vérité selon laquelle, après l'élévation du Seigneur Jésus, une autre personne divine viendrait sur la terre et y habiterait. Ici, nous voyons le Saint-Esprit comme puissance divine, opérant dans la vie nouvelle et produisant ce qui est en accord avec Dieu. L'eau vive que le Seigneur donne sera en lui une fontaine d'eau jaillissante en vie éternelle, verset 14. Une source est quelque chose qui coule d'une manière continue, en qui réside la puissance de faire jaillir l'eau. Cette puissance est présentée d'une manière encore renforcée ici par l'emploi des mots « jaillissante en vie éternelle ». C'est ainsi que le Saint-Esprit agit dans le croyant et produit
l'amour, la joie, la paix, la longanimité, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur, la tempérance. Galates 5, verset 22.
Toutes ces choses appartiennent à la vie nouvelle, mais elles sont produites par cette puissance qui opère dans la vie nouvelle. Il y a repos et puissance. Nous n'avons pas seulement la vie éternelle en lui, mais une source d'eau en nous, puissance venant de Dieu. Le ciel est venu dans mon cœur. C'est la puissance de la vie divine qui m'amène à la communion avec le Père et avec le Fils. Tout est personnel ici. Dans ma propre âme, il y a une source d'eau qui jaillit en vie éternelle. L'homme a soif, il boit de l'eau vive, et celle-ci devient pour lui une source qui le rend participant de tout ce qui est en Dieu. Et il crie à tout homme,
« Que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne gratuitement de l'eau de la vie. » Apocalypse 22, verset 17.
En Romains 8, nous trouvons le résultat de la doctrine présentée en Jean 3 et 4, l'Esprit comme vie et comme puissance dans le croyant. Dans les sept premiers chapitres de l'Épître aux Romains, il n'est parlé que deux fois de l'Esprit, savoir au chapitre 1, verset 4, en relation avec la résurrection du Seigneur Jésus, et au chapitre 5, verset 5, où il est mentionné comme ce qui explique que le croyant puisse se glorifier dans la tribulation.
Romains 1, verset 4. Déterminé Fils de Dieu en puissance selon l'Esprit de sainteté par la résurrection des morts, Jésus-Christ, notre Seigneur. Chapitre 5, verset 5. L'espérance ne rend point honteux parce que l'amour de Dieu est versé dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné.
Mais dans le chapitre 8, où la doctrine proprement dite de l'Épître est terminée, et où la position du croyant est exposée dans toute sa glorieuse liberté, délivré des péchés, délivré de la vieille nature, délivré de la loi, nous trouvons 18 fois le mot « esprit » ou « de l'esprit ». Au verset 2, nous avons l'esprit de vie qui produit la vie nouvelle dans l'homme, comme en Genèse 2, verset 7, Adam devint une âme vivante par le souffle de vie.
Romains 8, verset 2, car la loi de l'esprit de vie dans le Christ Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Genèse 2, verset 7, et l'Éternel Dieu forma l'homme poussière du sol et souffla dans ses narines une respiration de vie, et l'homme devint une âme vivante.
Il ne suffit toutefois pas que l'homme ait une vie nouvelle, il a péché, mais Christ a porté ses péchés sur la croix. Il a une nature pécheresse qui ne peut que pécher. Dieu l'a jugé en Christ sur la croix.
Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a fait pécher pour nous, 2 Corinthiens 5, verset 21. Dieu ayant envoyé son propre Fils en ressemblance de chair de péché, et pour le péché, a condamné le péché dans la chair. Romains 8, verset 3.
Au verset 4, nous trouvons non seulement le désir du nouvel homme de faire le bien,
car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, Romains 7, verset 22,
mais la puissance pour agir ainsi,
afin que la juste exigence de la loi fût accomplie en nous, qui ne marchons pas selon la chair, mais selon l'esprit.
Ce n'est pas seulement la chair d'un côté et la nouvelle nature de l'autre, mais la vieille nature, le péché dans la chair, jugé par Dieu dans la mort et la résurrection de Christ, et l'esprit, comme puissance amenant la nouvelle nature en relation vivante avec son objet. C'est la révélation du Père et du Fils que reçoit l'âme dans laquelle habite le Saint-Esprit. Ce n'est pas la même chose que ce qui est dit de Balaam, par exemple, « L'Esprit de Dieu ne vint sur lui que pour un temps », Nombre 24, verset 2.
Et Balaam leva ses yeux et vit Israël habitant dans ses tentes selon ses tribus, et l'Esprit de Dieu fut sur lui.
Mais ici, nous voyons comment le croyant reçoit le Saint-Esprit après avoir été amené à la vie. Sa position est caractérisée par cela. Il n'est pas dans la chair, mais dans l'esprit. Il a l'esprit de Christ et appartient à Christ. Le Père l'aime comme il aime Christ. Il a l'esprit de Dieu et a ainsi communion avec Dieu. Il a l'esprit d'adoption par lequel il crie « Abba Père ».
L'esprit lui-même rend témoignage avec notre esprit que nous sommes enfants de Dieu.
Jamais l'esprit ne peut insuffler du doute quant au salut, ou susciter la pensée « J'espère être sauvé ». Le Saint-Esprit apporte la certitude de l'adoption et le sentiment béni de la communion. Oui, le Saint-Esprit habitant en nous, nos corps aussi n'appartiennent plus à la terre mais au ciel, et Dieu les ressuscitera un jour, comme il a ressuscité Christ d'entre les morts.
Si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu, co-héritier de Christ.
Telle est la vraie position du croyant, une position que les croyants de l'Ancien Testament ne possédaient pas. Sommes-nous conscients de ce que nous sommes devenus et le réalisons-nous dans la pratique ?